France Culture la nuit, avec vous jusqu'à 6h du matin. France Culture la nuit, un patrimoine radiophonique.
Maurice Nadeau nous parle. Je participe, je m'enrichis à la lecture, je ne suis pas aussi bête que je le suis tout seul. Loin d'être resté tout seul, Nadeau a accompagné bien du monde, tour à tour, militant politique, journaliste, simultanément critique littéraire à Combat et à l'Observateur, directeur de la revue Les Lettres Nouvelles et surtout éditeur parmi les grands découvreurs. Cela, quelle que puisse être la finesse de la poudre d'escampette utilisée parfois ensuite par les bénéficiaires. Maurice Nadeau est le nom même d'un exploit. Saisi ici par Alain Clerval, Nadeau en 1971 a un itinéraire de 25 ans. Les voici en 6 volets, la littérature comme langage, Flaubert et l'écrivain nouveau, Sade et la contrainte sadienne, Trotsky et Breton, Nadeau essayiste et la quinzaine littéraire.
Maurice Nadeau, vous êtes critique littéraire depuis 25 ans et vous exercez une grande influence dans les lettres. Vous êtes directeur de la quinzaine littéraire, vous dirigez une collection qui s'appelle Les Lettres Nouvelles et une revue du même nom. Vous avez commencé dans la critique littéraire à Combat il y a environ 25 ans au sortir de la Résistance et vous avez, je crois, introduit à cette époque un ton tout à fait nouveau dans la critique et qui tranchait avec l'académisme qui précédait. Vous avez contribué à imposer depuis 20 ans de très nombreux jeunes écrivains qui comptent parmi la littérature d'aujourd'hui. Vous avez en même temps introduit en France de très grands écrivains étrangers comme Malcolm Lowry, Henri Miller, Gombrowicz. Vous jouez toujours un rôle très important. Vous avez même fait partie de certains jurys littéraires. Et je crois que vous avez débuté dans les lettres en écrivant une histoire qui, à l'époque, a eu un très grand retentissement, une histoire du surréalisme. Alors, je voudrais vous demander quelle est l'origine de cette vocation de critique.
Disons que j'étais dans l'enseignement, j'aimais lire, j'avais un grand amour en général pour l'imprimé. Les livres, je les ai collectionnés depuis mon enfance. Et de fil en aiguille, enfin, de la lecture à la réflexion sur la lecture, je crois que c'est comme ça que les choses se sont passées. Maintenant, quant à, l'entrée à Combat, il y a eu des circonstances favorables. C'était la libération, le renouvellement des équipes, la recherche, en effet, d'un ton nouveau, pas seulement en critique littéraire, mais dans toute la vie politique. Et le slogan de ce journal, de la résistance à la révolution, montrait que les dirigeants de ce journal, enfin Pascal Piat, Albert Camus, Albert Olivier, qui était souvent un éditorialiste, Pierre Herbart, qui est venu par la suite, Raymond Aron, etc., espéraient un changement sérieux de l'état économique, social et politique de la France après la libération. Pour la partie littéraire, il y avait assez peu de place. Donc. Et à partir du moment où j'ai pu avoir une page, où Pascal Piat m'a donné une page, très gentiment et de façon un petit peu extraordinaire, parce que j'arrivais là-dedans quand même, bon, j'avais quoi, 30 ans, un peu plus de 30 ans, et ce journal qui était fait par des écrivains. Il y avait Henri Calais, il y avait Marc Bernard, il y avait des gens enfin, qui étaient des romanciers ou des écrivains. Il se trouvait que, bon, moi j'étais un peu jeune pour tenir une page littéraire, mais il y a eu cette confiance immédiate de Pascal Piat, mon égard, qui venait, je ne sais pas, enfin, d'atomes crochus qui se sont révélés lors de cette visite que je lui avais faite, impromptue, et de la lecture de l'histoire du surréalisme que je venais de publier il y avait quelques jours. C'était un journal qui ne faisait aucune place aux faits divers. Il était interdit d'avoir un fait divers en première page. Il y avait l'éditorial en général de Camus. C'était surtout un journal politique. L'orientation, c'était celle qu'indiquait sa devise de la résistance à la révolution, mais dans la plus grande liberté. C'est-à-dire qu'on voyait des opinions assez contradictoires s'exprimer dans les éditos, par exemple, et même dans l'orientation générale du journal.
Ce qui serait intéressant, je crois, de préciser justement, c'est de rappeler les écrivains dont vous avez parlé ou ceux qui ont collaboré aux pages littéraires de combat à cette époque. Est-ce que par exemple, à l'époque, les deux grands écrivains qui dominaient l'horizon littéraire de cette époque, c'est-à-dire Jean-Paul Sartre et Albert Camus, ont-ils participé, ont-ils contribué d'une manière ou d'une autre à ces pages littéraires? D'autre part, l'influence dominante, peut-être même un peu écrasante, qu'ils exerçaient dans la littérature de cette époque, est-ce qu'elle vous paraissait bienfaisante ou au contraire, est-ce que vous insurgiez contre cette sorte de dictature de fait de l'existentialisme notamment?
Sartre et Camus n'ont jamais collaboré à cette page littéraire. Enfin, je vais dire qu'ils dépassaient un peu, le cadre de cette page. Sartre avait fait un reportage sur la Libération, enfin, je me souviens, sur la Libération de Paris. Camus faisait les éditos. Bon, la page littéraire était réservée à autre chose. Il est de fait que c'était les deux écrivains qui régnaient à cette époque. Ça veut dire que les écrivains qui ensuite, dont on a beaucoup parlé et qui sont actuellement des écrivains chéris de la jeunesse, par exemple, je pense à Artaud, je pense à Bataille, à Michaud, à Léris, à Queneau, ces écrivains-là n'étaient pas des plus connus à l'époque. Enfin, on pourrait chiffrer le nombre de leurs lecteurs. Et moi, ça m'intéressait justement parce que je les aimais. Enfin, c'était pas par désir, enfin, je ne sais pas quel désir de chercher de l'insolite, mais enfin, ils me paraissaient de grands écrivains. Et le travail que, ou la tâche que je me suis donnée, enfin, une tâche très plaisante finalement, c'était de les faire connaître davantage. Ils n'ont pas collaboré particulièrement à cette page littéraire, mais ils publiaient. Bon, il était intéressant de signaler leurs ouvrages, d'en parler, de faire des articles sur ces ouvrages. Alors, il y avait un troisième, finalement, courant, si vous voulez, c'était le courant surréaliste, qui était un courant qui avait été souterrain pendant l'occupation, puisque Breton était parti aux États-Unis, Éluard était devenu surtout un poète de la résistance, Aragon était aussi un poète de la résistance, et en plus au Parti communiste, enfin militant communiste. C'est-à-dire que le surréalisme en tant que tel, qui a toujours été représenté plus pure, si vous voulez, par Breton et Perret, était absent. Et c'est au retour de Breton en 1946, et au retour de Perret en 1947, que ce courant a repris de la vigueur, que le groupe s'est reformé, etc. Alors vous voyez, il y a ces trois, Sartre, Camus, Bataille, Léris, etc. Et les surréalistes, ça fait à peu près les trois courants qui dominaient un peu cette époque, jusque vers les années 50, où alors là, il y a eu un renversement de tendance, une espèce de néoclassicisme qui s'est installé. Une réaction, disons, pour entre guillemets, dans tous les domaines, non seulement dans le domaine littéraire, dans le domaine politique aussi.
En 1951, à la suite de divergences avec la direction de Combat, du journal Combat, vous quittez et vous abandonnez la direction des pages littéraires. Je crois qu'un certain temps s'écoule et Julliard vous confie la direction d'une nouvelle revue, Les Lettres Nouvelles, qui ensuite va donner naissance à une collection. Et alors j'aimerais, Maurice Nadeau, que vous nous parliez de cette deuxième étape de votre carrière de critique.
Oui, c'est une étape qui chevauchait un peu la première, parce qu'en même temps que j'étais à Combat, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'avais un tel amour de l'imprimé que j'avais envie aussi de publier des livres des autres, bien sûr. Et j'avais commencé, enfin ça n'a pas beaucoup d'intérêt, dans des maisons qui ont disparu maintenant, comme le Pavois ou comme Robert Marin, où j'avais notamment publié le Stalingrad de Plivier, qui était un livre qui a eu un certain succès. Et en même temps que j'étais à Combat, j'avais commencé une collection chez Correa qui s'appelait Le Chemin de la Vie. Collection dans laquelle j'ai publié plusieurs ouvrages de Miller, Sexus, Nexus, Le Monde du Sexe, etc. Laurence Derel, Le Quatuor d'Alexandrie, Mesro, un livre qui avait eu, c'est le fameux joueur de jazz, un livre qui a eu un certain succès, qui s'appelait La Rage de Vivre, Malcolm Lowry, Au-dessous du volcan, tous ces ouvrages, ces auteurs avaient paru dans Le Chemin de la Vie. Je pense à des auteurs français aussi comme Albert Memmi, qui s'est fait un nom depuis, dont j'ai publié le premier ouvrage. Mais enfin, tout ça serait un peu long à rappeler. Le fait que j'ai quitté Combat en 51 m'a donné plus de liberté sur le plan de l'édition, disons. Et il se trouve que fin 52, René Julliard, qui dirigeait la maison que vous connaissez, à faveur d'une rencontre, enfin les rencontres jouent toujours un grand rôle dans la vie, à faveur d'une rencontre autour d'un micro, me dit « mais pourquoi vous ne feriez pas, vous n'avez rien à faire actuellement, vous ne faites rien, vous n'écrivez nulle part, pourquoi vous ne feriez pas une revue chez moi ?» J'ai dit « bon, enfin je l'ai remercié, je dis je vais réfléchir ». C'était l'époque où les revues reprenaient une sorte d'intérêt, la NRF s'était transformée en nouvelle revue française. La table ronde recommençait, le Mercure de France republiait. Enfin, ça paraissait une époque favorable aux revues. J'ai dit, bon, très bien, c'est les Lettres Nouvelles, donc, qui ont été fondées en mars 1953, c'est-à-dire après plusieurs mois de réflexion. Et ça a commencé par être une revue mensuelle qui a paru comme ça pendant 5 ans. Enfin, je peux vous faire l'historique des Lettres Nouvelles si ça a de l'intérêt. Mais en même temps que cette revue, et ce qui était intéressant aussi pour l'éditeur et pour moi aussi, c'était de publier des auteurs, c'était de publier des livres, de publier une collection. De sorte que j'ai abandonné la collection que je dirigeais chez Coréa pour prendre une direction de collection chez Julliard. Et là, enfin, j'ai eu l'occasion de publier aussi des auteurs inconnus des Français, des jeunes Français d'abord et des étrangers, enfin, en assez grand nombre.
Puisque vous avez cité tout à l'heure le nom d'Henri Miller, que vous avez été un des premiers, je crois, à défendre lorsqu'il était l'objet de procès et qu'il n'était, il lui était pas possible de se faire éditer dans son propre pays, j'aimerais que vous nous parliez un peu d'Henri Miller, dans quelles circonstances vous avez été amené à rencontrer son œuvre, comment vous avez connu l'homme, le portrait que vous pouvez nous en faire. Je crois que c'était à l'époque de la publication en France de Tropique du Cancer et de Tropique du Capricorne.
Et c'est un livre qui m'était tombé entre les mains, Henri Miller, je ne le connaissais pas, et j'avais fait un article d'un enthousiasme tel que ça fait un peu une traînée de poudre. En fait, le livre a été épuisé en peu de jours et en même temps, des poursuites étaient déclenchées contre Henri Miller, contre ses traducteurs. Bah, ce que j'ai fait, c'est ce que tout le monde aurait fait à ma place, c'est-à-dire dans la situation où j'étais et dans le journal où j'étais, j'avais quand même pas mal de facilité pour ameuter, disons, des gens. Bon, j'ai téléphoné à Gide, j'ai écrit à Mauriac, à Martin Dugard, à un certain nombre de critiques en place, comme André Rousseau, Figaro littéraire, à Pierre Segers, enfin bref, Max-Paul Fouché, je ne me souviens plus exactement de tous ceux qui ont accepté, pour leur demander de faire un comité de défense d'Henri Miller et empêcher les poursuites de la justice. Bon, il y avait de tels noms dans ce comité que le pouvoir a reculé. Le procès n'est pas venu, les poursuites ont été abandonnées, du moins pour Tropique du Cancer. Elles ont repris ensuite pour d'autres livres de Miller, mais chaque fois, il suffisait de brandir la menace des écrivains pour que le pouvoir recule. Miller, je l'ai connu ensuite. Alors, il y a eu une correspondance qui s'est établie, bien sûr, entre nous. Il est venu à Paris en 1953. Il a habité chez moi pendant quelques semaines. Et je l'ai connu davantage, nous sommes devenus très amis, je viens encore de recevoir une lettre de lui il y a quelques jours.
Oui, mais ce que je voulais vous demander, c'est ce que Miller apporte de neuf dans la littérature, quel est le ton nouveau et quelle est la raison de la sympathie, de l'intérêt, de la fascination que Miller a exercé sur vous.
Miller est un romancier d'abord, un romancier à partir de sa propre vie. Mais ces livres, s'ils sont une vaste autobiographie, sont tout de même des romans. Et notamment, Tropique du Cancer est un roman fort bien composé, avec une intrigue, des personnages, lui apparaissant comme le personnage principal. Et ce n'est pas sur ce plan technique, moi, qui m'a intéressé, mais sur le plan de, disons, de la franchise totale, avec laquelle il parlait de choses dont on ne parlait pas encore en ce moment. Maintenant, c'est un débordement sur ce plan-là. Mais enfin, de parler, par exemple, des rapports sexuels. Bon, c'est une petite chose, si vous voulez, dans son œuvre. Mais la façon dont il en parlait, et le lyrisme avec lequel il en parlait, et la façon dont il rattachait, par exemple, l'érotisme à toute une cosmogonie, pourrait-on dire, une philosophie même, faisait que cette œuvre était nouvelle, à la fois par la franchise, par le ton direct, par le lyrisme, et par l'audace d'aborder certains problèmes.
Alors, dans votre vie, en conséquence, la connaissance de Henri Miller et le rôle important que vous avez joué en sa faveur, pour lui éviter des poursuites judiciaires coïncide en quelque sorte aussi avec un tournant dans votre vie, c'est-à-dire l'époque où vous jetez dans le métier d'éditeur et vous contribuez alors de façon très très efficace et concrète à imposer de jeunes écrivains. Ce n'est plus seulement l'observateur qui est sur le devant, mais aussi l'éditeur qui va contribuer à façonner le paysage littéraire de l'après-guerre. Alors je crois que c'est cette deuxième étape de votre vie dont nous allons parler demain. Maurice Nadeau, nous nous sommes quittés hier sur la fin de votre expérience de journaliste à combat, où nous avons parlé donc de tous les écrivains et du rôle que vous aviez joué pendant les années qui ont suivi la libération. Et maintenant, nous allons parler d'une autre époque de votre vie, c'est celle qui coïncide avec votre entrée chez Julliard comme directeur de la revue des Lettres Nouvelles et bientôt comme responsable de la collection du même nom. Nous pourrions peut-être parler des préférences qui vous ont guidé dans le choix des jeunes écrivains que vous avez amenés aux Lettres Nouvelles.
Mais en réalité, je n'ai pas abandonné mon activité de critique, enfin, si vous voulez, puisque je suis passé à l'Observateur, qui était dirigé par Bourdet, qui avait été le dernier directeur de combat, enfin après Pascal Piat et après que Camus en soit parti. Je suis resté à l'Observateur 6 ou 7 ans, enfin, à faire la critique hebdomadaire. Mais ce qui me retenait davantage, c'était évidemment cette revue. C'était une chose importante, puis c'était une revue mensuelle, et dans laquelle je me suis efforcé de publier des auteurs étrangers. Enfin, ce qui est particulier à la France, je crois, c'est son ignorance assez grande de ce qui se passe à l'étranger, qui vient d'une certaine autosatisfaction, disons, et l'idée que la France est toujours le premier pays du monde sur le plan intellectuel, ce qui, après la guerre, n'était plus tout à fait le cas. Enfin, si on songe aux auteurs étrangers importants qui avaient été publiés avant la guerre, à Faulkner, à Kafka, à Hemingway, à Steinbeck, on ne peut pas dire qu'ils aient eu un grand succès. Moi, je me souviens avoir trouvé Sanctuaire sur les quais, enfin, les œuvres de Faulkner ne se vendaient pas. Il y a eu un renouveau ou un intérêt pour les Américains pendant l'occupation, c'est à ce moment-là qu'on les a lus. Et il y avait beaucoup d'autres écrivains à découvrir, dont il fallait parler, qu'il fallait éditer. Et c'est, je crois, la tâche, comme ça, un peu inconsciente, mais aussi assez volontaire que j'ai faite dans les Lettres Nouvelles. C'est-à-dire que si on parcourt les numéros de la revue mensuelle, on y trouvera beaucoup de noms nouveaux. Et dans les livres que j'ai publiés, on trouvera aussi des auteurs nouveaux qui, parfois, venaient de l'Est, comme Gombrowicz, par exemple, qui parfois venait d'Amérique, comme Malcolm Lowry, ou qui parfois venait d'autres pays. Enfin, c'était des gens qui étaient difficiles de faire admettre en France. Malcolm Lowry, qui maintenant est un écrivain célèbre, qui est mort, et dont les œuvres posthumes que je continue de publier, d'ailleurs. À ce moment-là, le Au-dessous du volcan était un ouvrage qui n'a pas fait florès. Enfin, on avait fait une édition de 3500 exemplaires. Il a fallu 10 ans pour l'épuiser. Depuis, on a fait de nombreuses éditions. Gombrowicz était un Polonais qui avait émigré en Argentine. Et c'est d'Argentine que j'avais reçu le manuscrit de Ferdi Dourc. Raconter comment il a été difficile de faire admettre Gombrowicz aux Français. C'est une longue histoire, puisque je suis revenu pendant 3 ans de suite sur ce manuscrit que Julliard, à l'époque, ne voulait pas prendre. Bon, finalement, pour me faire plaisir, il a dit « éditez-le ». Et c'est un auteur qui est mort il y a 2 ans et en passe d'obtenir le prix Nobel. Sur d'autres écrivains français, par exemple, je pense... enfin, français... qui écrivent en français, je pense à Rabal, dont j'ai publié le théâtre et le premier roman. Je pense à Jean Reverzy, dont je n'ai pas publié le premier livre, mais auquel je me suis attaché, dont j'ai publié les livres postérieurs à celui qui avait obtenu le prix Renaudot. Je pense à Doisseau, avec La Gana, qui a été un succès. Je pense à Edgar Morin, dont j'ai publié l'autocritique. Et je pense aussi à Walter Benjamin, qui, à ce moment non plus, n'était pas connu, et d'ailleurs dont je n'ai pas vendu plus de 500 exemplaires.
Vous avez cité au début de votre liste Malcolm Lowry, qui est un très grand écrivain, et je voudrais vous demander quelles sont les circonstances, dans quelles circonstances vous avez découvert cette œuvre et ce que vous pensez de Malcolm Lowry, qui est une œuvre extrêmement difficile, puisqu'aujourd'hui encore, je crois, de nombreux critiques livrent des interprétations tout à fait différentes de ce roman.
À la vérité, je ne peux pas dire que j'ai découvert Malcolm Lowry, parce que Malcolm Lowry avait eu un grand succès, enfin Au-dessous du volcan avait eu un grand succès aux États-Unis. Je crois même qu'il était dans la liste des best-sellers grâce au choix d'un livre du mois, enfin d'une organisation de ce genre. Seulement, il se trouve que, peut-être est-ce à cause de la traduction, aucun éditeur français ne s'était intéressé à Malcolm Lowry. Et moi, je savais qu'il existait et je connaissais le contenu d'Au-dessous du volcan sans l'avoir lu. Celui qui l'a découvert en réalité, c'est Max-Paul Fouché, qui avait fait des pieds et des mains pour le faire éditer en France, qui n'y est pas parvenu. Et en somme, j'ai pris la suite, et disons que j'ai mis de l'obstination pour l'éditer. Une nouvelle traduction avait été faite en collaboration avec Malcolm Lowry, et l'éditeur qui devait l'éditer, c'était le Club français du livre, c'est-à-dire un club et non pas un éditeur. Enfin, le Club français du livre, vous savez comment il marche, on faisait par correspondance. Et en somme, j'ai fait une coédition avec le Club français du livre. Ensuite, il n'a plus trouvé d'éditeur. Moi, je me suis attaché à publier les œuvres suivantes. Et il y en a un certain nombre qui sont remarquables, enfin, de première importance.
Vous avez publié, en livre de poche, une histoire du roman français depuis la guerre, qui retrace l'évolution du roman, donc depuis les années 45 jusqu'à nos jours, que vous avez complété à mesure que le temps passait. Par ailleurs, vous avez joué un rôle donc, comme éditeur et vous avez imposé des premiers écrivains, comme Georges Perec, par exemple, Jean Reversy, dont vous parliez tout à l'heure, Jean Doisseau, etc. Alors, est-ce que vous pourriez, à travers une rétrospective du roman français depuis la guerre, montrer quelles sont les tendances qui vous paraissent les plus importantes, celles qui aujourd'hui dominent la production, et dans quelle mesure vous avez vous-même contribué à faire triompher dans la littérature moderne certaines tendances plutôt que d'autres?
Cette histoire du roman français depuis la guerre est partie au fond des articles que j'avais écrits à Combat pendant les sept ans, et puis même à l'Observateur ensuite. Je me suis efforcé de les mettre en ordre, de les compléter et d'instituer, enfin de mettre un certain fil dans cette évolution qui est toujours un peu artificiel. Ce qu'on peut dire, c'est qu'en effet, il y a eu une marche plutôt qu'une évolution du roman, et qui fait que, par exemple, le roman existentialiste des années d'après-guerre, qui avait donné de grands écrivains, sans compter Sartre, Simone de Beauvoir et le premier Jean Coe, ce roman existentialiste a perdu peu à peu de l'importance parce que la question de l'engagement que préconisait Sartre perdait elle-même de son importance et parce que les événements aussi évoluaient. Il y a dans l'histoire politique, sociale et donc littéraire de la France un tournant vers les années 50 qui tient à une fatigue qu'avaient les gens de cette transformation qui mettait du temps à venir et qui finalement s'est retournée en une sorte de retour aux anciennes méthodes de pensée, aux anciennes habitudes politiques et sur le plan littéraire, un retour à ce qu'on appelait la forme. C'est l'époque où triomphe autour d'une revue qui s'appelle La Parisienne une certaine tendance néoclassique, disons, avec Roger Nimier, avec Jacques Laurent, avec d'autres, enfin, on peut même mettre François Sagan, si vous voulez. Après, à cette époque, c'est vers 1950. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était pas tellement les romanciers, que ce que les écrivains, à travers la forme qu'ils adoptaient, arrivait à changer, si vous voulez, dans l'atmosphère intellectuelle. Ce qu'il y a à ce moment-là, en fait, vers 1950, c'est un double mouvement, un retour néoclassicisme, enfin, à l'élégance de la forme. Le grand patron de ces jeunes écrivains, c'est Stendhal, un Stendhal évidemment très édulcoré. Et puis d'autre part, une désaffection du roman. C'est à cette époque qu'on commence à connaître les œuvres de Beckett. Beckett a publié Molloy en 1947, je crois. J'ai été le premier à signaler ce livre. Et l'œuvre de Beckett s'est déroulée en somme entre 50, Godot et 1952. Enfin, c'est tout ça est postérieur. Bataille, c'est à ce moment-là qu'il commence à être connu, qui fonde d'ailleurs la revue Critique, qui publie l'érotisme, qui publie un certain nombre d'ouvrages. Léris publie Bifur, enfin cette autobiographie infinie, enfin qui a trois volumes actuellement, enfin qui est près de sa fin. Alors vous voyez, il y a ce double mouvement et ce qu'on appelle le nouveau roman date aussi un petit peu de cette époque. C'est à partir de 1950 que Butor publie L'emploi du temps, qu'on commence à parler de Robbe-Grillet. Nathalie Sarraute avait publié avant la guerre, mais enfin, on l'avait oublié. C'est à ce moment-là, en 1946-1947, qu'elle publie Portrait d'un inconnu. En 1952, Le planétarium. Enfin, vous voyez, il y a ce mouvement de retour au roman. C'est une période complexe parce que, à ce moment-là, il y a différents courants qui se chevauchent, qui s'interpénètrent et qui donnent des grands écrivains, d'ailleurs, dans chaque courant.
Maurice Nadeau, comme vous venez de le souligner, paradoxalement, donc, on assiste vers les années 50 à un retour en force du roman. Mais c'est un roman qui se vide de tout ce qui faisait sa substance autrefois, assez paradoxalement, c'est-à-dire qu'il rejette beaucoup d'éléments considérés comme romanesques, c'est-à-dire les personnages, l'intrigue, la temporalité. Par exemple, Nathalie Sarraute, Michel Butor, Robbe-Grillet, effectivement, n'écrivent pas des romans comme Balzac ou Stendhal. L'action romanesque est considérée comme dérisoire et les personnages n'ont aucune individualité. Mais alors, justement, apparaît Beckett, que vous avez contribué à faire connaître. Alors, est-ce qu'on pourrait parler un petit peu de Beckett ?
Le premier ouvrage qui avait paru après la guerre, c'était Murphy, qui avait paru en 1947. Et je dois dire que je ne l'ai pas découvert tout seul, bien sûr. C'est Tristan Tzara, avec qui j'avais pas beaucoup de rapports, que je ne connaissais pas tellement, qui un jour me téléphone et me dit, vous savez, il vient de paraître un livre extraordinaire dont vous devriez parler dans Combat, c'est Murphy. Bon, c'est d'un nommé Samuel Beckett, c'est un Anglais qui vit à Paris, vous devriez lire ça. Bon, je le lis, en effet, je suis frappé par le côté nouveau, si vous voulez, de ce genre de roman, le côté assez cruel, assez sadique. Et Murphy n'était pas encore ce qu'on appelle du Beckett, dans la mesure où Beckett est représenté surtout par un Antoine Godot, ou Les Beaux Jours, ou La Dernière Bande, c'est-à-dire quelque chose de très dense et de très sec. Son apport romanesque, mais tout ça, il faudrait mettre ça entre guillemets, est représenté par trois ouvrages importants. C'est Molloy, c'est Malone meurt et c'est L'innommable. Sa carrière dramatique ne vient qu'après, ou plutôt elle chevauche un peu cette partie romanesque. Et lui-même dit qu'il a terminé son œuvre en 1950, ce qui est faux parce qu'il a écrit beaucoup d'autres choses et très importantes après. Je pense à Commencer, à Imagination morte imaginée, etc. Ce qu'apportait Beckett, c'était pour moi l'essence même de la littérature, en ce sens que disparaissaient les personnages, disparaissait l'intrigue, disparaissait le décor, disparaissait même la philosophie de l'action, les leçons qu'on pouvait tirer d'une anecdote, au profit d'une voix qui n'était plus la voix même de l'auteur. Dans Malone meurt, il dit « je ». Et il examine son... Enfin, le personnage qui dit « je » examine son œuvre antérieure et on peut croire que c'est l'auteur. Mais il se débarrasse même de ce superflu pour se laisser traverser par une voix impersonnelle, ce que Blanchot, précisément, appelait la voix neutre, c'est-à-dire un langage qu'on peut imaginer... je ne sais pas moi, flottant comme ça dans les airs, enfin, qui traverse un médium, enfin un moyen qui est celui qui parle, et par lequel ce langage le définit. Enfin, c'était ça la grande nouveauté de Beckett, c'est qu'il était arrivé, il est arrivé à saisir ce qui pour moi est l'essence même de la littérature, c'est-à-dire ce langage qui s'exprime à travers un écrivain, sans que l'écrivain en soit forcément conscient et sans que, même volontairement, il veuille l'exprimer.
Maurice Nadeau, vous nous parliez de Beckett, mais en même temps que vous faites connaître Beckett et que vous défendez son œuvre, vous vous occupez aussi d'un écrivain français méconnu, enfin méconnu entre guillemets, qui est Gustave Flaubert, puisque vous établissez et vous préfacez ses œuvres complètes, qui a ensuite réuni, forme un volume, Gustave Flaubert, qui est un livre très important pour la connaissance de Flaubert. Or, ce livre vient justement à son époque, et bien à son époque, puisqu'on assiste aujourd'hui à une renaissance de Flaubert, et que Flaubert est considéré comme le patron de beaucoup de très nombreux jeunes écrivains, comme Philippe Solers, par exemple. Sartre vient de lui consacrer un ouvrage énorme de 2000 pages. Je voudrais donc que vous nous parliez de Flaubert. Qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à Flaubert? Que pensez-vous de Flaubert? Quelle est l'influence de Flaubert aujourd'hui sur la littérature? Qu'est-ce que représente Flaubert?
La raison pour laquelle je me suis intéressé à Flaubert, je viens de la découvrir en lisant Sartre, son Flaubert précisément, c'est que dans le deuxième volume, dans certaines pages, il fait un rapprochement tout à fait inattendu, et pour moi qui a été révélateur, entre le surréalisme et Flaubert. Chose extraordinaire, une chose qu'on a jamais faite. Et en effet, il les rapproche sur le plan de ce qu'il appelle le travail de l'imaginaire. C'est-à-dire que Flaubert, parmi les premiers, enfin le premier romancier moderne, n'est pas un écrivain réaliste, comme on le dit généralement, n'est pas non plus un écrivain romantique dans ses premières productions. Mais c'est un homme qui, en effet, partir des matériaux qu'a tout écrivain, a construit, enfin échafaudé, un monde qui est un monde qui est surtout subjectif, en fait qui est un monde un peu comme celui que les surréalistes auraient voulu édifier, où la pensée, suivant la formule de Breton, aurait été exécutoire à tout coup. Bon, Sartre en profite pour condamner à la fois la tentative surréaliste et la tentative de Flaubert. Mais moi, j'ai découvert la raison pour laquelle, m'étant intéressé au surréalisme, je me suis intéressé à Flaubert. Flaubert, en effet, comme vous l'avez dit, est un écrivain méconnu en France, parce qu'à l'étranger, il a eu une énorme importance, il a joué un très grand rôle. Enfin, il faut se souvenir que, par exemple, Kafka voulait écrire du Flaubert. Il a fait du Kafka, ce qui n'est pas plus mal, mais en fait, il était très influencé par Flaubert. Joyce avait comme livre de chevet Bouvard et Pécuchet. Faulkner a parlé de Flaubert en disant que ça avait été son patron. Enfin, vous voyez, toute la littérature mondiale a été influencée par Flaubert. Or, il se trouve qu'en France, et ça vient surtout de nos écrivains à nous du début du siècle, qui refusaient le roman et qui refusaient Flaubert en tant que romancier, justement. Je pense à ce que disait Valéry de Flaubert, à ce que disait Gide. Enfin, Gide n'aimait pas Flaubert, il aimait La Correspondance, qui est un Flaubert en débraillé, si vous voulez, mais qui n'est pas l'auteur de Madame Bovary. Et les premiers Français, disons, du XXe siècle qui sont intéressés à Flaubert, c'est Proust, qui avait été très étonné par l'éducation sentimentale en relevant enfin, les intervalles, enfin, le temps qui passe dans l'éducation sentimentale, par exemple. Le renouveau de Flaubert vient de ce que, en effet, il a été le premier romancier moderne. Enfin, par exemple, quand on parle des romanciers du XIXe siècle, on avait l'habitude de dire, bon, Stendhal et Balzac. Maintenant, on ajoute Flaubert. Et on voit qu'en effet, si Flaubert a été un disciple de Balzac dans une certaine mesure, enfin, dans la peinture de la société, je pense à Madame Bovary, les mœurs de province, ou l'éducation sentimentale et les mœurs parisiennes, il a apporté une dimension nouvelle en ce sens que sur le plan de la technique, sur le plan de la facture, sur le plan de l'écriture aussi, il a voulu faire autre chose que du roman. ou plutôt, il voulait que le roman soit en somme comparable au poème. Et c'est parce qu'on, comment dire, on a méconnu cette volonté qu'il avait, que le roman était pour Gide et Valérie et Claudel la pire des choses. Enfin, ça ne pouvait pas prendre place dans l'art. L'activité artistique se manifestait par des poèmes ou, comme Gide, par des sotties, etc. Mais pas par des romans. Et parce qu'on n'avait pas vu que Flaubert bâtissait ses romans comme des poèmes. Et en ce sens, il est plus près de Mallarmé ou de Rimbaud, d'Autrémont, que des frères Goncourt, que des romantiques vieillissants, comme Victor Hugo ou Georges Sand, qui sont ses contemporains. Il y a aussi, chez Flaubert, enfin, cet amour du concret que les nouveaux romanciers, que Robe Grillet, Solers, etc., ont bien détecté chez lui. Enfin, cet amour de la description, non pas pour la description en tant que telle, non pas non plus pour la description lyrique à la façon dite romantique, mais l'objet pour lui-même. C'est ce côté concret qui a frappé, par exemple, Robe Grillet. Il l'a dit à ce moment-là. Maintenant, il y a aussi le fait de la technique, enfin du roman, qui est tout à fait particulière chez Flaubert, et qui fait que déjà dans l'éducation sentimentale, il n'y a pas d'intrigue à proprement parler. Il y a une société, bon, avec différentes individualités, différents personnages. Il n'y a pas de personnage central parce que Frédéric est assez inconsistant. Il se laisse balloter par les événements. Et tout le roman tient dans ce temps qui passe et dans l'écriture que Flaubert lui a donnée, cette recherche du style qu'il appelait.
Est-ce que dans vos préférences, Maurice Nadeau, est-ce qu'il n'y a pas une postulation contradictoire? D'une part, vous avez écrit une histoire du surréalisme, or tout le monde sait que les surréalistes avaient la littérature en horreur, qui considéraient que le culte de l'art pour l'art, la beauté, ils le vomissaient absolument et l'ont souligné à maintes reprises dans des pamphlets très violents. Or Flaubert, lui, représente et illustre le cas d'un écrivain tout à fait opposé, qui s'est enfermé dans son œuvre, qui s'est cloîtré comme un ermite dans sa thébaïde, et qui s'est dévoué, qui est entré en littérature comme en autre en religion, et qui a sacrifié sa vie à l'édification de son œuvre. Or, au contraire, les surréalistes ont voulu montrer que la vie primait l'œuvre, et que c'était de la vie qu'il fallait faire une œuvre. Ils ont voulu faire pénétrer, au contraire, la littérature dans la vie, ouvrir toute grande les portes du rêve, de façon à ce que le rêve modèle la vie. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction, précisément, de Flaubert aux surréalistes ?
Sûrement, mais il y a aussi des rapprochements. Et le rapprochement enfin, qu'on peut faire répond à une conception comme ça un petit peu générale de la littérature qui fait que, au fond, tout écrivain nouveau met en question toute la littérature et au fond se pose hors de toute littérature. Enfin, c'est le cas de Rimbaud, c'est le cas de Lautréamont, c'est le cas de Sade, c'est le cas des surréalistes. Et on peut rejoindre cette région mal définissable par deux voies, il me semble, qui sont en effet contradictoires, en effet rejeter de la littérature, ou au contraire s'enfoncer dans la littérature jusqu'au moment où on retrouve cette région. Je crois que les deux voies, enfin, les faits sont là. C'est-à-dire que Flaubert, en s'enfermant dans son métier, en consacrant sa vie à l'écriture, est arrivé à mettre à jour un certain absolu de la littérature, alors que les surréalistes ont pris le parti contraire et ont abouti à des œuvres, bon, bien sûr, des poèmes, je pense aussi aux ouvrages de Breton, mais ça n'était pas pour eux, l'essentiel. Et Sade ne pensait pas faire de la littérature, il écrivait par besoin et il écrivait aussi par désir de rejoindre, me semble-t-il, enfin un certain absolu. De sorte que les rapprochements qu'on peut faire sont des rapprochements de personnalité, d'individualité très, très différentes, mais qui au fond cherchent la même chose, à sortir des catégories dans lesquelles traditionnellement on enferme le roman, le poème, la littérature en général. Ça aboutit à une attitude de vie, chez Sade c'est bien clair, ça aboutit à une attitude de vie aussi chez les surréalistes, et à une attitude de vie chez Flaubert.
Oui, au fond, de Flaubert au surréalisme, malgré la contradiction, on dégage une certaine conception de l'écrivain, une conception de l'écriture, et au fond, c'est cette conception qui inspire vos préférences. C'est-à-dire que les jeunes écrivains que vous éditez sont ceux précisément chez qui vous apercevez cette recherche inconsciente, mais d'une écriture et d'une œuvre qui est une sorte d'absolu, car au fond, personne n'a jamais pu définir ce qui fait la valeur d'une œuvre, ce que c'est que la littérature. Et précisément cette parole dont Blanchot parle, cette parole blanche, elle apparaît aussi bien dans des écrits surréalistes que dans l'œuvre de Flaubert. Qu'en pensez-vous?
Oui, je crois que l'important pour un écrivain, ça n'est pas de se fixer un but, écrire une œuvre. Je crois que l'œuvre est le sous-produit d'une attitude. Je pense par exemple à des gens très différents, que j'ai édité, comme Jean Reversi, qui était médecin et qui a fait en somme une œuvre littéraire hors de son métier. Je pense à Claire Etcherelli, quand elle m'a apporté son manuscrit, c'était une femme qui avait bien l'intention de faire un roman et qui, en fin de compte, nous a apporté tout autre chose, un certain climat qui régnait en France au moment de la guerre d'Algérie, un certain climat aussi du travail dans les usines. Et si je pense à Pérec, c'est aussi hors de la littérature dans un certain sens, dans la mesure où il a capté des courants de la vie, enfin par exemple l'intérêt pour les choses, pour les objets, pour les gadgets, en fait, qui caractérisent notre vie actuelle. Et si je pense à Doiceau, c'est aussi quelqu'un qui est hors de la littérature. Et alors ce qui est curieux, c'est que ces gens si différents aboutissent à des œuvres, et que ces œuvres entrent dans des catégories du roman, de l'essai, de tout ce qu'on voudra, alors que leur dessein était tout autre. Leur dessein était de parvenir par l'écriture à une certaine compréhension, lucidité, c'est encore le minimum, davantage à une certaine attitude devant la vie. Et je crois que c'est ça l'important, et que c'est ça qui me fait choisir, enfin qui me fait, bon, parmi la quantité de manuscrits que je reçois, le côté insolite, le côté hors de la littérature de ces écrivains-là.
Oui, au fond, vous avez horreur des écrivains qui veulent faire une carrière dans les lettres. C'est-à-dire que vous avez horreur de tous les livres qui ont été écrits précisément pour plaire ou pour obtenir un succès. Oui. Vous recherchez précisément ceux qui se lancent dans une entreprise extrêmement difficile et qui marchent tout seuls à la recherche de quelque chose qu'eux-mêmes ne savent pas très bien, ne connaissent pas très bien à l'avance. Et vous défendez une conception extrêmement austère de la littérature. Au fond, c'est une ascèse.
C'est vrai, pour moi, la littérature est quelque chose qu'on ne veut pas particulièrement, mais qu'on est obligé de faire. Enfin, l'écriture vient d'une attitude générale devant la vie et qui fait qu'elle se manifeste, bon, de cette façon, comme elle peut se manifester d'autres façons. Enfin, je pense au cinéma, je pense à toutes sortes d'autres moyens de s'exprimer. Mais justement, la littérature n'est pas un moyen d'expression pour moi. Le moyen d'expression est secondaire. Ce qui compte, c'est l'exploration de domaines que l'homme quotidien n'est pas en mesure de fouler. Enfin, grâce à l'écriture est un instrument de découverte, un instrument de découverte du monde, de soi-même. Et je crois que chez chacun de ceux que j'ai publiés, il y a cette note de recherche, d'exploration de quelque chose d'autre, et qui ne tient plus, je ne sais pas, ni à l'écriture elle-même, ni à l'œuvre, ni à l'engagement politique, ni au besoin de s'exprimer, mais à une recherche, à une conquête, à une exploration.
Nous pourrions peut-être parler demain de l'influence, de l'action que les écrivains peuvent avoir sur la société dans laquelle ils vivent, et ainsi faire apparaître peut-être une esthétique, enfin une philosophie de la littérature, aujourd'hui, où semble-t-il la littérature apparemment perd tout de même certains adeptes. Enfin, je veux dire que l'audience de l'écrivain est un peu menacée dans une société qui place avant tout au premier plan la satisfaction des biens matériels. Maurice Nadeau, hier nous avons parlé un peu de la conception que vous aviez de l'écrivain. Et vous avez à peu près dit ceci, que l'écrivain, au fond, aujourd'hui, était un solitaire, et que son œuvre, au fond, il la construisait contre des genres ou des modes. qui autrefois étaient établis qu'à l'inverse, par exemple, de ce qui se passait au XVIIe siècle ou au XVIIIe siècle. Ce n'étaient pas les grands modèles classiques que voulait reproduire dans son œuvre un écrivain, mais au contraire, c'était un peu de chercher ce par quoi il pouvait échapper à tout genre précis et bien défini. Et alors, à cet égard, est-ce qu'on ne pourrait pas en venir à Sade, qui est un écrivain que vous avez découvert avant bien d'autres, avant Paulhan, qui ensuite a préfacé, je crois, une œuvre de Sade, avant Pierre Klossowski, avant Simone de Beauvoir, avant ces grands biographes comme Morisset et Gilbert Lely, vous avez été un des premiers à réhabiliter Sade, qui était toujours dans les oubliettes de l'histoire. Alors je voudrais vous demander, qu'est-ce qui vous a intéressé dans Sade, qu'est-ce qui fait la grandeur de l'œuvre de Sade, et en quoi on peut rattacher l'œuvre de Sade à la littérature moderne?
D'abord, une rectification à propos des publications. C'est Morisset, le grand sadien, si vous voulez, enfin celui qui a étudié le premier, oui, en France, l'œuvre de Sade. Et Morisset est mort juste avant la guerre, je crois. Les ouvrages de Paulhan et de Klossowski ont paru en même temps, disons, que l'anthologie d'œuvres de Sade que j'ai publiée en 1947. Tout ça a paru la même année, au fond, il y a eu une espèce de convergence. Enfin, tout ça pour rectifier un petit peu sur les dates de publication. Mais il est de fait que le grand intérêt pour Sade, et les commentaires, les gloses, les exégèses sont venus après, elles durent encore. Ce qui m'avait mis sur la piste, c'est une fois de plus les surréalistes. C'est-à-dire quand on s'est intéressé au surréalisme, on s'intéresse forcément à Sade, dont il était l'un des inspirateurs, si vous voulez. L'autre étant Amont, enfin, il y en a eu aussi d'autres. Mais enfin, Sade est représenté pour les surréalistes l'absolu, disait Breton, la liberté est perdue. La liberté est perdue, c'est-à-dire le franchissement de toutes les frontières, ce que les surréalistes eux-mêmes cherchaient à faire. Sade est un écrivain, mais ça n'est pas à ce titre qu'il est resté dans l'histoire. Enfin, l'histoire des littératures, d'ailleurs, l'ignore. Tout de même, il a inspiré un certain nombre d'écrivains. Flaubert, par exemple, l'avait à son chevet, faisait des séances, d'ailleurs, de lecture publique. Il était dans la bibliothèque de Dostoïevski, dans celle de Kafka, et bref, il a été tout au long du XIXe siècle une sorte de maudit, puisqu'il n'était pas publié, il a toujours été publié sous le manteau, et encore aujourd'hui, il n'y a que certaines œuvres de Sade qui sont publiées ouvertement, Aline et Valcourt, Les Crimes de l'amour, etc., mais pas Juliette, pas Les 120 journées de Sodome, pas La philosophie dans le boudoir, qui sont encore des œuvres qui tombent dans la publication, tombent sous le coup de la loi.
Alors précisément, l'œuvre de Sade, malgré tout, s'est placée sur le terrain de l'érotisme. Et la transgression dont vous parlez, c'est une transgression qui s'effectue essentiellement, évidemment, dans le domaine érotique. La révolte de Sade, cette révolte absolue, s'effectue dans ce domaine. Et alors justement, pour quelle raison, malgré, disons, l'étroitesse du point de vue sadien, l'œuvre de Sade a-t-elle cette portée?
Eh bien, parce qu'elle dépasse le plan érotique. Sade est un professeur d'érotisme, il donne des leçons, enfin tous ses livres sont des ouvrages didactiques au fond. Il y a toujours des professeurs, des élèves, et on passe à la pratique. Mais, comment dire, enfin tout ça repose sur une philosophie, d'ailleurs qui est assez contradictoire, parce que Sade, en plein XVIIIe siècle, est en accord avec, par exemple, Dolbach, disons, c'est-à-dire qu'il est à la fois athée et matérialiste. En même temps, il croit, enfin, dans certains de ses ouvrages, à l'existence d'un dieu du mal, c'est-à-dire qu'il retourne l'univers chrétien pour en faire une sorte de vaste messe noire. Et il est à la fois humaniste dans la mesure où il voudrait que l'homme satisfasse ses besoins et dans la mesure où il fait du désir un absolu. Et anti-humaniste dans la mesure où pour lui, l'homme est déterminé par la nature. Il ne remplace pas Dieu par la nature, il en fait, la nature lance des espèces L'homme est la dernière en date et la mieux organisée, mais il n'est pas dit que d'autres espèces ne lui succéderont pas. Enfin, vous voyez, il y a une philosophie de Sade qui va au-delà de l'érotisme. L'érotisme, d'ailleurs, pour lui... Enfin, bon, les ouvrages de Sade sont érotiques, si on veut. Enfin, ce sont pas des ouvrages échauffants, si vous voulez. C'est écrit dans une langue qui est celle du XVIIIe siècle. Et ce qu'il décrit, c'est un cortège d'horreurs, enfin, qui précisément ont appliqué, en fait, que son nom, Sade, est appliqué à une perversion bien connue, le sadisme. Ce qui est plus concret, c'est sa morale. Sa morale, c'est une morale, comme on dirait aujourd'hui, anarchiste, c'est-à-dire qui est contre toute convention, règlement, tabou, contre toute organisation sociale, pour la liberté complète de l'individu qui doit satisfaire son désir dans toutes les conditions.
Mais en dehors de la portée, disons, contestataire de l'œuvre de Sade, en quoi Sade peut-il apporter quelque chose à un écrivain d'aujourd'hui ? Quelle est la raison, malgré tout, de l'attrait, quand même, qu'il est très difficile à expliquer, de l'œuvre de Sade sur beaucoup d'écrivains contemporains ? Quelle est la leçon qu'ils apprennent dans l'œuvre de Sade ?
Poser des questions difficiles. Dans la mesure où Sade franchit toutes les barrières, enfin de la morale, de la philosophie, de l'humanisme, il atteint lui aussi à une sorte de cet absolu de la littérature dont on parlait l'autre jour, à cette dictée qui vient de partout et de nulle part. Il a écrit « Tout le bonheur de l'homme est dans son imagination », c'est tout de même une chose assez extraordinaire, pour un matérialiste convaincu.
Oui, mais alors si on voit très bien ce que Sade apportait aux surréalistes, puisque Sade a été l'un des premiers, précisément, à transgresser tous les interdits et à se révolter contre toutes les contraintes et même à inverser les valeurs traditionnelles de la société, on voit très bien tout ce que donc Sade apportait au surréalisme. Mais ce que l'on voit... plus difficilement, c'est les raisons de l'intérêt que beaucoup d'écrivains actuels portent à Sade. On voit très bien, évidemment, ce que Georges Bataille y trouve, parce qu'il y a certaines préoccupations dans l'œuvre de Sade qui rejoignent incontestablement celles de Bataille. On a l'impression, du reste, que Bataille applique dans le domaine de l'écriture les leçons que Sade lui a transmises dans le domaine de l'érotisme. Il a déplacé, semble-t-il, le terrain des audaces de Sade. Mais aujourd'hui, il est difficile d'apercevoir les raisons de l'influence de Sade sur les écrivains, sur les jeunes écrivains, par exemple, ou sur, par exemple, un philosophe comme Michel Foucault.
C'est-à-dire que l'influence d'un écrivain ne se montre pas toujours dans l'écriture elle-même. Enfin, je veux dire qu'un écrivain ne se réduit pas à un être qui écrit. Et il se fait une philosophie, il a une certaine vue du monde, il agit d'une certaine façon, et la lecture de Sade peut, en effet, lui ouvrir des horizons enfin, auxquels il n'aurait pas pensé. Il est conditionné, lui aussi, l'écrivain moderne, par toutes sortes de... par son éducation, par toute la littérature qui a précédé, etc. Bon, Sade lui ouvre des portes, pourquoi ne s'y engouffrerait-il pas ? Ça n'est pas une leçon d'écriture qu'il lui donne, parce que l'écriture de Sade, enfin formellement, n'a rien de remarquable. C'est une belle écriture du XVIIIe siècle, à une époque où tout le monde sait écrire. Mais ce qui peut l'étonner, l'écrivain moderne, l'influencer dans une certaine mesure, c'est que ce domaine de la vie courante, disons, pour le romancier, même s'il fait des incursions dans l'irrationnel ou dans l'imaginaire, ce domaine est exploré par Sade jusque dans ses profondeurs, jusque dans ses abîmes, jusque dans des endroits qu'on n'ose pas, en fait, qu'on n'ose pas explorer encore de nos jours, enfin, qu'on explore peu à peu, que Bataille, par exemple, a exploré, mais qui reste marqué d'une sorte d'étiquette maudite, enfin infernale. On a toujours l'impression de se mouvoir dans un enfer.
Oui, mais ne pensez-vous pas précisément que la subversion donc, que Sade opère contre les valeurs à travers l'écriture, que l'inversion précisément de toutes les valeurs morales auxquelles il se livre n'est pas quelque chose précisément qui se retrouve dans les théoriciens de tel quel ? Est-ce que précisément eux qui espèrent, donc, par un travail sur l'écriture, promouvoir une révolution, non seulement dans la littérature, mais dans la société aussi. Est-ce que c'est précisément pas ça qui fait l'intérêt de Sade pour beaucoup d'écrivains actuels? Quel est le lien de Sade à Solers et aux théoriciens de tel quel?
Ouais, il faudrait peut-être le demander à Solers et à tel quel. Enfin, ils ont écrit sur Sade, ils voient son œuvre en effet comme une leçon d'écriture, comme un texte, comme ils disent, qui s'insère dans le vaste texte du monde. À savoir dans quelle mesure ce texte est subversif, nous le savons bien. Est-ce que les gens tels quels le savent? Je pense aussi. Mais enfin, quant à moi, je ne vois pas le lien qu'ils font entre cette écriture et, par exemple, la révolution marxiste-léniniste. Sade dépasse toutes les questions d'étiquette. C'est un anarchiste foncier qu'on ne peut pas enfermer dans une catégorie, que ce soit la philosophie, la morale ou même l'écriture. C'est la subversion totale, telle que l'avait vu Breton.
Non, mais ce que je voulais dire, c'est que donc dans l'œuvre de Sade, on s'aperçoit que les rapports entre les hommes et les femmes sont fondés sur la contrainte, que c'est à celui qui exercera sur l'autre une contrainte la plus forte. Est-ce que ces rapports de force, ces rapports, comme vous disiez tout à l'heure, sadomasochistes, que Sade décrit dans son œuvre, est-ce que, sur un plan allégorique, bien entendu, élevé à une certaine grandeur noire, est-ce qu'il ne préfigure pas un peu la société moderne? C'est-à-dire les rapports de force, ou peut-être, je crois que c'est Hegel qui disait « chaque conscience poursuit la mort de l'autre ». Est-ce que ce n'est pas un thème philosophique très moderne qui annonce précisément les préoccupations de beaucoup d'écrivains actuels, comme Michel Foucault, par exemple?
Oui. C'est-à-dire que si on cherche un humanisme dans ça, on tombe encore une fois de plus dans la contradiction. D'une part, il veut que l'homme, en tant que produit naturel, si vous voulez, ou produit de la nature plutôt, satisfasse tous ses besoins et libère ses désirs, enfin satisfasse ses désirs également. Donc, d'une certaine façon, ce pourrait être un humanisme. Mais d'autre part, cet homme appartient à une espèce qui relève de la nature et qui, individuellement, nie l'autre puisqu'elle prend l'autre comme objet de son plaisir. Et finalement, elle n'est déterminée ni par Dieu, ni par des ressorts intérieurs. Elle est un produit de la nature, en sorte que ça rejoint, en effet, ce que pense Foucault d'un anti-humanisme, c'est-à-dire d'un monde dont l'homme n'est plus le maître, le patron, le roi, si vous voulez, mais dont Dieu a disparu également.
Mais enfin, Sade fut un révolutionnaire dans ses écrits. Alors peut-être de Sade à Trotsky pouvons-nous trouver un lien, précisément, puisque vous avez préfacé les écrits littéraires de Trotsky. Voulez-vous que nous parlions demain, à propos de l'œuvre de Trotsky, de la place de l'écrivain dans la société, et peut-être de ce que pourrait être une littérature dans une société socialiste? En 1964, Maurice Nadeau, vous avez réédité, ou plutôt édité pour la première fois, puisque seule une édition italienne avait précédé la publication des textes de Trotsky, que vous avez introduit en France, et c'est une véritable révélation, d'abord parce que ce sont des textes tout à fait inconnus et qui projettent un éclairage tout à fait neuf sur la personnalité de Trotsky. Par ailleurs, ce sont des textes tout à fait remarquables, parce qu'ils traitent d'un problème très intéressant, c'est celui des rapports de l'écrivain avec la Révolution, rapports qui ne sont pas du tout abstraits, puisque Trotsky a eu à s'en occuper, a même à les résoudre pendant la brève période où il a partagé le pouvoir avec Lénine. Et ensuite, il n'a pas cessé de méditer, à la suite, disons, du dévoiement de la Révolution d'octobre, il n'a pas cessé de méditer en exil sur ce que devrait être un écrivain révolutionnaire, sur ce que c'était que l'art, enfin les rapports plutôt que l'art devait entretenir avec la Révolution. Mais en dehors de la situation particulière qui était celle de la Russie en 1917, est-ce qu'on ne peut pas tirer précisément des écrits de Trotsky des leçons qui pourraient être appliquées à la situation de l'écrivain dans toute société, en dehors de la société socialiste?
Oui, sûrement. Enfin, il faut replacer ça tout de même dans le contexte et dans la personnalité de Trotsky. Trotsky est un grand écrivain. Mais c'est pas un homme de lettres, c'est pas un écrivain de profession, c'est un révolutionnaire dans toute l'acception du mot, c'est-à-dire pour qui l'état politique et social et économique des hommes importe au premier chef. Il s'est trouvé dans une situation particulière. Il a écrit « Littérature et révolution », c'est une suite d'articles qu'il a réunis en ouvrage, en 1923, c'est-à-dire à un moment où Lénine meurt en 1924 et où Staline déjà est secrétaire général du parti et commence son travail de sape contre Lénine à la fois et contre Trotsky. Et Trotsky, en 1923, est obligé de prendre des vacances. Et c'est pendant ces vacances qu'il écrit, en un mois, je crois, cet ouvrage. Ça fait partie d'un dessin plus général qui est celui des rapports entre les écrivains et la Révolution, ou plus exactement entre les écrivains et le parti. Pour Lénine, la littérature est au service du parti, ce qui ne l'empêche pas de laisser, surtout dans l'explosion de 1917, une très grande liberté aux écrivains. Enfin, c'est l'époque la plus florissante, enfin, de la littérature soviétique. C'est-à-dire que les futuristes, Maïakovski, enfin, tous ces gens-là, il y a une floraison extraordinaire de talents dans tous les domaines, pas seulement en littérature, mais en architecture, en peinture, etc. Ce sont des courants anarchiques, si vous voulez, qui ne se soumettent pas au parti, bien que Maïakovski fasse le propagandiste des idées communistes. Mais il y a un autre courant qui voudrait mettre, alors, appliqué au pied de la lettre les recommandations de Lénine sur la littérature, que toute littérature doit être une littérature de parti. Et c'est un peu contre cette vue que Trotsky s'élève à ce moment-là.
Ce qui est tout à fait remarquable, c'est que Trotsky n'a pas du tout versé dans ce qu'on devait appeler plus tard le réalisme socialiste. C'est-à-dire qu'au contraire, il a défendu pour l'écrivain le droit de s'exprimer selon sa nature, selon ses aspirations profondes. Certes, il souhaite que l'écrivain traite de problèmes qui puissent intéresser l'homme de toutes les classes de la société, mais il n'a jamais voulu asservir la littérature à la propagande, il n'a jamais voulu en faire un art de propagande, vous le soulignez dans votre préface. Par exemple, il parle de façon tout à fait lucide de Maïakovski. Il montre en quoi Maïakovski était un écrivain très sincère sur le plan politique, mais en quoi son œuvre, par ailleurs, se rattache à certaines des tendances de la tradition russe.
Au fond, c'est un libelle, si vous voulez, c'est-à-dire une arme pour Trotsky sur ce plan de la littérature, des intellectuels et de la culture. Il place la littérature dans un mouvement plus vaste, qui est celui de la culture, qui est celui de l'alphabétisme pour les Russes, dont à ce moment-là, une grande partie ne sait pas lire, ne sait pas écrire. Et pour lui, la révolution doit apporter au moins ce minimum de culture à l'ensemble des Russes. Maintenant, il y a le cas des écrivains qui, par définition et par vocation, sont individualistes. Alors, de quelle façon vont-ils se rattacher au parti ? Il ne leur demande pas, et ce serait idiot, mais enfin cette idiotie a été commise plus tard, il ne leur demande pas de se mettre au service du parti, mais plus généralement de s'insérer dans le courant général qui, à ce moment-là, porte la Russie entière à changer les conditions de vie, à changer l'état économique et social. Et ils pensent que les écrivains ont leur rôle à jouer dans ce grand mouvement de subversion, de fondation de valeurs nouvelles, ce qui signifie aussi un changement dans la vie des hommes, un changement dans la sensibilité, un changement dans les valeurs, etc.
Mais ce qui est assez remarquable, et vous le soulignez dans votre préface, c'est que Trotsky fut non seulement un théoricien, mais aussi au fond un excellent critique. Par exemple, à l'occasion d'une polémique qu'il a eue avec André Malraux à la suite de la publication des Conquérants, ou bien dans des pages qu'il a écrites juste après la parution du Voyage au bout de la nuit, on aperçoit que le jugement de Trotsky est d'une lucidité et même d'une prophétie extraordinaire. Un peu comme Nisan, il prévoit et il annonce au fond l'orientation politique de Céline. De même, il aperçoit tout de suite ce qui, dans l'œuvre de Malraux, disons, n'est pas tout à fait orthodoxe au regard du strict point de vue révolutionnaire. C'est assez intéressant, ça. Est-ce que vous pourriez nous parler précisément, au fond, de cet aspect de l'œuvre critique de Trotsky, c'est-à-dire du critique proprement dit.
La boussole de Trotsky, c'est le marxisme. C'est toujours en fonction d'une compréhension des rapports sociaux qu'il fait sa critique littéraire. Même ses premiers écrits, par exemple sur Tolstoï, quand il était déporté en Sibérie après la révolution de 1905, sont déjà des approximations de l'étude d'un écrivain en fonction des rapports sociaux, enfin en fonction de la société dans laquelle il écrit. C'est ce qu'il faut jamais perdre de vue. Et sa critique de Malraux est percutante, parce que c'est la condition humaine qu'il critique, je crois, surtout, parce que Malraux vit dans une abstraction, bien qu'il ait participé à la guerre d'Espagne, etc., mais il s'est trouvé... on peut participer à une action et pas en comprendre ni l'origine ni les aboutissements. Et la lumière qu'apporte Trotsky toujours dans sa critique, c'est de replacer l'écrivain dans la société, c'est de replacer les ouvrages dans le courant social. La littérature en elle-même, je ne pense pas qu'elle l'intéresse énormément, enfin c'est pas un critique littéraire au sens habituel du terme, c'est un marxiste qui applique ses instruments à l'étude d'un phénomène particulier qui est aussi un phénomène social, qui est la littérature. C'est en quoi ces écrits sont percutants et éclairants.
Comme vous l'avez dit tout à l'heure, au fond, il y a une question qui reste en suspens, enfin qui n'a jamais été résolue, qui n'a jamais été résolue en tout cas à la satisfaction ou de la société ou des écrivains. C'est au fond les rapports que doit avoir un écrivain avec le régime politique dans lequel il vit, et surtout avec le régime socialiste, s'il s'agit d'un régime socialiste. Au fond, Trotsky lui-même n'a pas résolu la question, parce que il a posé certaines bases générales, mais enfin, qui restent tout de même très imprécises. Et de quelle manière est-ce qu'on pourrait définir, au fond, la place de l'écrivain dans une société socialiste, et la place de l'écrivain par rapport au parti dominant dans une société socialiste? Question qui est d'actualité, puisqu'elle se pose toujours, et on l'a bien vu lors du printemps de Prague.
Ce qu'il faut remarquer, c'est qu'il y a une évolution même dans la pensée de Trotsky dans ce domaine. En 1923, il est tout de même pour une certaine allégeance des écrivains au parti, c'est-à-dire qu'il leur demande, comme ils reflètent dans leurs œuvres l'état social, il leur demande une certaine compréhension du monde qui leur rendra plus clair leur travail même. Et en 1938, au moment où il signe un fameux manifeste avec Breton, il écrit « toute licence en art », c'est-à-dire qu'il demande à l'écrivain la liberté complète de s'exprimer. Et c'est parce qu'entre-temps, il y a eu toute cette période du stalinisme et en littérature du réalisme socialiste qui a abouti à des œuvres à peu près sans valeur. Seuls les écrivains en marge ou... comme Pasternak, par exemple, enfin, on fait une œuvre valable. De sorte qu'il a révisé ses vues. En 1923, il est encore assez... il voudrait quand même que les écrivains soient sous une certaine coupe du parti. Pas de mot d'ordre, bien sûr, c'est idiot. Mais tout de même, qu'ils soient inoculés un petit peu, qu'ils soient inoculés par le marxisme. En 1938, il ne leur demande plus rien, simplement d'exprimer ce qu'ils pensent, ce qu'ils voient dans le monde, ce que leur être intérieur leur dicte.
Peut-être qu'au fond, les rapports d'un écrivain avec la politique ne peuvent jamais être des rapports très étroits, parce que l'art, au fond, exige pour s'épanouir une telle liberté et même une telle licence qu'il est très très difficile à un écrivain, même s'il est sincèrement acquis aux idées d'un parti politique, de faire passer les valeurs qui sont les siennes sur le plan politique dans son œuvre.
Oui, parce que ce sont toujours des valeurs individualistes. Enfin, l'écrivain réagit en fonction de ce qu'il pense et de ce qu'il sent. Bon, il peut avoir des vues politiques, il peut avoir des vues sociales, il peut être un citoyen, enfin, il peut être tout ce qu'on veut, mais dans son œuvre, il est lui-même. Or, qu'est-ce qui se passe en général dans les régimes, enfin, que nous appellerons autoritaires, c'est qu'on ne peut pas laisser, sinon comme soupape de sûreté, les écrivains s'exprimer comme ils l'entendent. C'est l'histoire de la littérature soviétique, c'est l'histoire, enfin toute récente, par exemple, du poète Padilla à Cuba, où le régime, on ne pouvait pas l'accuser d'être stalinien. C'est l'histoire maintenant, enfin tout à fait récemment, du directeur de la Roumanie littéraire, membre du comité central du parti, qui est démissionné de son poste parce qu'on donne un tour de vis là-bas en Roumanie aux écrivains. On veut qu'ils se mettent plus directement au service du parti. Et c'est la négation même de la littérature. Le socialisme, bon, c'est l'épanouissement des facultés intellectuelles, en même temps que sur le plan matériel. Et si on oblige l'écrivain ou à écrire sur commande ou à pratiquer une autocensure, il est paralysé ou il fait des œuvres médiocres. Alors c'est une question qui n'a jamais été résolue. Trotsky la résout au moment où il est en exil, c'est-à-dire où il n'a pratiquement plus de pouvoir et il est pour la licence en art. À ce moment-là, c'est-à-dire qu'on peut dire qu'il a beau jeu d'être pour la licence en art, mais s'il était resté à la tête de l'État soviétique, on peut se demander s'il aurait fait preuve du même libéralisme.
Peut-être y a-t-il une incompatibilité totale entre, au fond, le métier d'écrire et celui de gouverner. Et peut-être qu'au fond, de même qu'une opposition ne peut être que dans l'opposition, peut-être que les écrivains sont faits pour contester la société. Et au fond, ne peuvent-ils plus être des écrivains s'ils prennent le pouvoir?
Je crois que vous avez mis le doigt sur la question, en effet. Toute œuvre littéraire est en elle-même une œuvre de contestation de la littérature d'abord, et elle n'a de valeur qu'à ce compte, c'est-à-dire que chaque écrivain compte annuler toute la littérature qui l'a précédée, sans quoi il n'écrirait pas, à quoi bon? Et c'est en même temps une œuvre de contestation sociale, politique et économique. Tout ça dans une certaine mesure et avec toutes les modifications qu'on peut faire.
Comme vous l'avez dit, comme nous l'avons fait apparaître au début de ces entretiens, Maurice Nadeau, parallèlement à votre action, enfin à votre œuvre plutôt d'essayiste, qui fit connaître des écrivains étrangers et qui surtout à présenter des œuvres, il faut bien le noter, où la politique, plutôt les idées, avaient une part importante, comme le surréalisme, comme Trotsky, comme Sade. Vous avez donc toujours, parallèlement à l'œuvre d'essayiste, vous avez été un directeur de journal, vous avez dirigé surtout la Revue des Lettres Nouvelles, et depuis 1966, vous avez dirigé conjointement avec François Herval, et désormais seul, La Quinzaine littéraire, qui est un journal d'information, et il se distingue à cet égard de la Revue des Lettres Nouvelles, qui est une revue, et une revue est forcément une publication beaucoup plus littéraire, parce qu'elle paraît à des intervalles beaucoup plus éloignés, mais un journal comme La Quinzaine est donc essentiellement un journal d'information. Alors, je voudrais vous demander quelle est votre conception du journalisme dans le domaine littéraire.
Bon, il faudrait retracer un peu une évolution qui partirait de la direction de la page littéraire de Combat à la direction de La Quinzaine aujourd'hui. Et en passant par les Lettres Nouvelles qui, je le rappelle, ont été pendant un an au moins hebdomadaires. C'était une revue hebdomadaire qui donnait des textes et qui en même temps jouait un rôle d'information et de critique. La Quinzaine littéraire est un organe qui a été fondé par Herval et moi-même sur le modèle du Times Literary Supplement ou du New York Review of Books, c'est-à-dire des journaux qui n'existent pas en France, qui comportent une recension des livres, de la plupart des livres qui paraissent en librairie, et qui en même temps, alors c'est un rôle d'information, et qui en même temps un rôle de critique, puisque chaque collaborateur de ce journal est amené à dire ce qu'il pense du livre qu'il a lu.
Est-ce que vous aviez une idée des valeurs des écrivains que vous entendiez défendre et imposer? Est-ce que vous aviez en quelque sorte, est-ce que vous vouliez illustrer à travers La Quinzaine une certaine conception de la littérature, ou bien est-ce que vous vouliez donc défendre un certain aspect, disons, du paysage littéraire. Et par ailleurs, est-ce que, lorsque vous avez créé ce journal, vous entendiez informer sur tout ce qui se faisait, ou bien à l'avance, est-ce que vous entendiez opérer une sélection, c'est-à-dire ne parler que de certains livres, mais pas de certains autres? Enfin, il y a un partage toujours très difficile, je pense, dans un journal à faire, entre le strict souci de l'information et la part du jugement, du parti pris, en quelque sorte.
Dans ce qu'on fait, il n'y a pas toujours des raisons très conscientes. Si vous m'amenez à réfléchir sur ce que je veux faire ou je voudrais faire, je vois tout de même une ligne avec le temps qui passe. C'est une certaine présence, un certain militantisme qui consiste à défendre, en effet, des conceptions de la littérature qui ne me sont pas propres d'ailleurs, mais enfin, que j'ai, qui sont des découvertes d'auteurs évidemment inconnus, à la fois français et étrangers, et qui sont, la défense de valeurs morales, sociales, politiques, économiques, tout ce que vous voudrez, sur le plan de la littérature, c'est-à-dire par la critique. La Quinzaine n'est pas un journal confessionnel, politique, je ne sais pas quelle étiquette on pourrait lui coller. C'est un périodique qui rend compte des publications, qui donne l'avis des collaborateurs du journal sur ces publications, et dans un état d'esprit, enfin ces collaborateurs sont très divers, ils n'ont pas été recrutés sur une appartenance politique ou confessionnelle. Ce sont des spécialistes en leur matière, soit en littérature, soit en sciences humaines, qui ont une autorité suffisante pour parler des livres qui paraissent. Il y a dans le domaine, par exemple, des sciences humaines, en psychologie, en sociologie, en ethnologie, enfin des découvertes enfin constantes. Et il est utile de tenir un certain public au courant de ces découvertes. Maintenant, il paraît des romans, des recueils de poèmes, des ouvrages d'histoire littéraire. Il est aussi utile de mettre le public au courant de ces publications, de le faire lire dans la mesure du possible, parce que ça a toujours un rôle, finalement, un journal quel qu'il soit, un rôle à la fois didactique et propagandiste, c'est-à-dire amener le plus grand nombre possible de gens à lire ce qui paraît, être au courant de ce qui paraît.
Comme vous venez de le dire, donc la Quinzaine se consacre d'abord à une tâche d'information, elle informe de tout ce qui paraît, mais à côté, disons, de la partie purement informative, il y a la partie critique, c'est-à-dire des articles qui sont écrits par des spécialistes ou bien par des amateurs sur des romans, des essais, des études. Mais alors, est-ce que vous pensez que lorsque un critique rend compte d'un ouvrage, il doit le faire d'une manière neutre, disons relativement objective, dans la mesure où l'objectivité existe, ou bien est-ce qu'il doit prendre parti, si le livre lui déplaît, se prononcer de façon passionnée et même avec humeur?
L'idéal serait de concilier des inconciliables, c'est-à-dire qu'à mon sens, le critique se définit par l'humilité, c'est-à-dire qu'il se met au service de l'auteur dont il parle, du livre dont il rend compte. Et il faut que ce compte-rendu soit évidemment objectif. Il faut dire ce qu'il y a dans un livre, il faut dire ce qu'est un auteur. Mais à côté de cela, il y a le côté personnel de celui qui rend compte d'un livre et qui, après avoir exposé ce qu'il y a dans ce livre, donne son sentiment. Alors là, vous voyez que c'est tout à fait autre chose. On entre dans un domaine, enfin dans le domaine de la subjectivité, des réactions personnelles.
Maintenant, ce qu'on pourrait poser, c'est faire au fond, puisque tout de même la Quinzaine a tout de même près de 6 ans d'existence, faire une sorte de bilan. C'est-à-dire, au fond, si on reprenait tous les numéros, est-ce que l'on apercevrait que la Quinzaine littéraire, au fond, s'est surtout prononcée en faveur de certains écrivains, en faveur de certaines tendances, ou bien qu'elle a fait la part égale entre tout ce qui se faisait? Qu'en pensez-vous? Est-ce que vous pensez qu'à la lecture de tous les numéros qui sont parus de la Quinzaine littéraire, on peut dire au fond la Quinzaine littéraire est un journal qui a des préférences et ses préférences vont dans telle ou telle direction?
Oui, je crois qu'on peut le dire, mais sans voir exactement quelles sont ses préférences. C'est-à-dire qu'évidemment dans la masse des livres qui se publient tous les jours, il y a d'abord une sélection. nous ne parlons que des livres qui nous paraissent en valoir la peine. Ou s'il s'agit de livres qui ont un grand succès et qui nous paraissent mauvais, d'ailleurs c'est pas obligatoire, il y a des livres qui ont un grand succès et qui sont bons. Mais enfin, s'il y a une, pour parler grossièrement, une escroquerie à la base, c'est-à-dire d'un écrivain médiocre dont l'œuvre, dont l'ouvrage plutôt, se tire à des centaines de milliers d'exemplaires, notre devoir, je pense, est de le dire, de le montrer, de rendre sensible au lecteur du journal. Étant donné cette sélection, il est sûr que si on regardait toute la collection, on verrait soit des questions qui nous intéressent plus particulièrement, et on verrait assez facilement que ça tourne autour d'une conception de la littérature. On a écrit beaucoup d'articles sur la linguistique, on a beaucoup écrit d'articles sur la critique même en général, sur les conceptions des critiques qui vont de Georges Poulet à Starobinsky, à l'équipe de Tel Quel. Est-ce qu'on a appelé l'attention sur certains écrivains? Ça, je le crois aussi. On a publié des articles sur René Daumal, sur le grand jeu, sur le surréalisme. On a même fait à un certain moment le point sur le surréalisme, c'est-à-dire qu'à partir des ouvrages de Breton qui paraissent et qui ont un grand succès actuellement, alors qu'il n'en avait pas du tout de son vivant, on a essayé de faire le point en demandant à des jeunes, par exemple, à des gens de 20 ans, ce qui retenait du surréalisme, en quelle mesure ça les avait influencés, c'est-à-dire pas seulement dans leur écriture, mais dans leur vie. Cette mise au point, je crois, a été très utile. Dans les domaines des sciences humaines, je crois qu'on a fait une grande place à Foucault, par exemple, qui apporte quelque chose de très neuf, qu'on a fait une grande place à Lacan, qui aussi apporte quelque chose de neuf en psychanalyse. Dans les domaines de l'ethnologie, où nous avons des spécialistes tout à fait remarquables, on a mis nos lecteurs au courant de tout ce qui se faisait de neuf dans ce domaine, de Lévi-Strauss à Balandier, par exemple.
À la fin de ces entretiens, qui touchent à leur terme, où nous avons essayé de tracer, hélas très brièvement, l'itinéraire que vous avez suivi depuis plus de 25 ans, je voudrais vous demander, Maurice Nadeau, au fond, ce que vous pensez de la vie littéraire aujourd'hui. Vous qui considérez que la littérature est une chose très très importante dans la vie et qui n'avez cessé de vous dévouer avec énormément de probité et de dévouement et de générosité à tout ce qui se fait dans le domaine littéraire, je voudrais vous demander au fond si vous êtes optimiste, pessimiste, si vous pensez que la littérature a une audience suffisante ou bien si nous vivons dans une société où la littérature aujourd'hui est quelque chose qui est beaucoup moins honoré, beaucoup moins prestigieux qu'autrefois.
Je crois que par rapport aux pays étrangers, la littérature joue en France, en effet, un rôle important et l'écrivain est un personnage enfin, dans notre société. Il suffit qu'un romancier débutant publie un ouvrage pour qu'immédiatement on lui demande son avis, sur l'écologie, sur n'importe quelle question. Enfin, son avis est pris au sérieux. Ça n'existe pas, par exemple, en Angleterre, ça n'existe pas aux États-Unis. Il y a peu de pays où la littérature soit aussi considérée qu'en France. Mais il y a le revers de la médaille, c'est-à-dire que, d'abord, les écrivains ont une haute idée d'eux-mêmes, ici, en France. Et le français aussi a une haute idée de lui-même, c'est-à-dire qu'il pense que tout s'organise à Paris, se fait à Paris, que l'origine des mouvements littéraires, artistiques et scientifiques sont à Paris. Or, c'est une vérité qui tend à devenir de moins en moins une vérité. Enfin, il est significatif tout de même que les plus grands inspirateurs enfin, du roman moderne soient James Joyce, soient Kafka, soit Faulkner. Pour chacun, on peut dire Kafka, Faulkner, Joyce ont été influencés par des Français, par Flaubert, par les naturalistes, par les symbolistes et tout ce qu'on voudra. Mais en tout cas, ils ont tracé des voies qu'ensuite les écrivains français ont foulées. C'est-à-dire que si la vie littéraire, si la littérature, la vie littéraire a une grande importance en France, il me semble que j'ai tenté de faire comprendre, enfin d'ouvrir un peu les portes sur l'étranger, en remarquant aussi que les écrivains français existent et en donnant, enfin, en attirant l'attention sur les jeunes auteurs qui avaient une œuvre à faire, qui l'ont faite d'ailleurs depuis. Enfin, si je me souviens bien, la plupart des nouveaux romanciers, de Rob Grier à Butor à Claude Simon, ont commencé par écrire dans les lettres nouvelles. Si je me souviens bien, c'est Barthes a commencé à écrire dans Combat sur une demande que je lui avais faite. Et il a fait dans les lettres nouvelles l'ensemble de ses mythologies. Bon, je pourrais continuer enfin sur ce thème. Enfin, ça n'est pas très très utile de le dire. Enfin, si je regarde mon action, enfin au terme d'aujourd'hui, enfin si je crois que j'ai joué un rôle d'animateur, disons, dans la vie littéraire française.
Maurice Nadeau, j'espère que nous avons réussi à faire apparaître au cours de ces entretiens la diversité de vos curiosités et de vos goûts. En 25 ans de métier d'éditeur, de critique, de journaliste, vous n'avez cessé de défendre la cause des lettres, soit en défendant des écrivains menacés, en défendant les droits de l'écrivain, de la personne même de l'écrivain, soit en réhabilitant des œuvres méconnues, oubliées, soit en introduisant des œuvres nouvelles. Et c'est toujours avec une vigilance, une probité, que vous vous êtes ainsi placé au premier plan de la vie littéraire. Si vous avez été mêlé à 25 ans de vie littéraire, ce n'est pas du tout par vaine satisfaction, mais c'est toujours au service de la littérature.
C'était Entretien en six volets de Maurice Nadeau avec Alain Clerval, diffusé la première fois du 11 au 16 octobre 1971.